Oh, 14h de l'après-midi.
14h. À l'affiche. Toi, t'es allé au ciné dernièrement?
Oui, j'y vais presque tous les jours. Mais si j'y vais pas, parfois je regarde de bons films à la télé.
Ah oui, à la télé, c'est pas mal aussi.
C'est pas mal aussi. Ouais.
Mais en prévisionnement, c'est moins bien quand même.
Oui, il vaut mieux l'avoir vu avant et replonger dedans quand on...
C'est ça, retourner au cinéma, le pied de retourner au cinéma. Voilà. Ou regarder un bon film de télé, même les séries d'ailleurs.
Oui,
on peut parler
pas.
De séries aussi.
Ah oui, il y a du boulot là.
Et c'est vrai. Mais en fait, si on veut parler de cinéma, c'est parce qu'on veut parler d'émotion.
C'est ça. Et de vérité, de curiosité.
Bref, on veut faire rêver, quoi.
Oui, oui, et continuer de rêver nous-mêmes.
Bref, on vous parlera de films qui sont à l'affiche
ou pas.
Bonjour à vous, bonjour à tous, amis HDRiens, HDRiennes, d'ici, d'aujourd'hui, de demain. Bonjour Geneviève.
Bonjour Elvire.
On va commencer tout de suite par laisser la parole, en reprenant notre souffle, à Geneviève qui va nous parler de Nous l'Orchestre, t'es allé voir ?
Oui, c'est un documentaire extraordinaire.
Ouais.
Il va pas tellement rester longtemps, alors allez-y, dès que possible, courez, parce que c'est un formidable documentaire sur l'orchestre de l'opéra, l'orchestre de Paris, à la Philharmonie.
À la Philharmonie de Paris.
Voilà. Et pourquoi c'est formidable? Parce que souvent, on peut avoir un peu peur d'aller dans un concert où les gens sont guindés, habillés, tout ça, où on a peur de s'ennuyer ou d'une demi-heure parce que l'œuvre est longue, etc. Là, c'est le travail de l'orchestre sur plusieurs œuvres, dont on a des extraits.
On n'a pas le temps de s'ennuyer.
On n'a pas le temps de s'ennuyer. On observe le travail du chef. Alors, c'est un exemple amusant, leur chef, c'est un jeune chef qui doit avoir la trentaine à peu près. Il est finlandais et il a des grands gestes, il fait des grands gestes, il est très expressif, il donne de sa personne, sa chemise transpire. Enfin, c'est vraiment, même ils sont là en train d'admirer tout le travail qu'il donne, ce produit. Et nous, on a l'impression, mais quand on connaît mal la musique, que c'est comme ça qu'il faut diriger, en fait, que c'est comme ça qu'on comprend les mouvements, que tout est expressif, tout est clair. Et puis, un peu plus tard, on a un chef anglais de 97 ans. Alors, évidemment, lui, il ne peut pas bouger autant. Et c'est simplement du bout des doigts qu'il dirige, avec les yeux, des hauts doigts et à l'œil. C'est le moment de le dire, quoi. Ah. Et c'est fantastique parce qu'on ressent la même chose. L'exactitude des mouvements, ce qu'il veut, il l'obtient. Et moi, je trouve ça super. Je préfère presque les répétitions que les orchestres, que les concerts, parce que c'est un moment où c'est imparfait, puis on obtient la perfection.
Ah oui, donc on voit le progrès.
On voit le progrès, on voit où il veut aller, pourquoi tout d'un coup ça passe de lentement à rapidement. Donc c'est une vraie expérience pour musicien ou pas musicien. Et je vais y retourner.
Film de Philippe Bézia avec Klaus Makela. Makela, c'est le
jeune chef qui est le chef. Il est en contrat sur 5 ans. Je pense que c'est même terminé maintenant. Mais il n'y a pas que lui. Il y a d'autres chefs qui interviennent, une chinoise. Il y a plusieurs chefs qui viennent. Et c'est très intéressant justement de voir la différence. Et c'est aussi intéressant de laisser parler un corniste, un violoniste. Il faut savoir que tous ces musiciens-là sont sélectionnés sur un concours et qu'ils seraient tous capables de jouer en solo. Et voilà, qu'on leur demande de jouer tous ensemble la musique, pas celle qu'elles voudraient vraiment jouer, mais celle du chef.
Ça m'évoque le film En Fanfare où on voit qu'à un moment donné, c'est Pierre Lottin qui va pour justement passer une audition pour éventuellement faire partie d'un orchestre.
Combien c'est difficile.
C'est exactement comme ça que ça se passe. Hein,
ça se passe derrière un rideau. Les gens ne voient
les
jurys ne voient pas qui joue derrière.
Ouais.
Et après, ils s'entretiennent ensemble sur le
candidat qu'ils ont entendu
et lequel intégrait le mieux l'orchestre. Il y a d'ailleurs une séquence comme ça. Et c'est pas forcément le meilleur qu'ils prennent. C'est celui qui va mieux s'adapter au groupe parce que c'est un groupe.
Parce qu'on le sent au jeu.
Au pipe, peut-être qu'aussi on commence à connaître après, on écoute d'abord et par exemple, il y a le corniste, celui qui joue du cor anglais. Il est tout seul à jouer cet instrument-là. Il joue du hautbois, mais il y a le cor anglais et tout ça. De temps en temps, il a des magnifiques solos et tout, il est content et tout ça. Et lui, ce qu'il admire, c'est les 18 violonistes qui jouent la même chose au même moment, à quart de seconde près, la même note, le même mouvement, à la même vitesse. Et donc, il s'admire entre eux et ça, on le sent, c'est beau. Voilà.
Ok, donc c'est un film
à voir.
Oui, et puis du coup, je me disais, souvent, on ne va pas voir des concerts de musique classique parce qu'on se dit, oh, j'ai pas les codes.
Oui, c'est
là,
pas...
c'est pas, du les... coup, on peut être affranchi
oui,
de ça.
Oui, les codes nous sont donnés, finalement.
Ah.
Et on ressent leur émotion et leur bonheur, et ils passent par leur jeu et puis par leur propos, quoi. Non, et puis, il ne faut pas oublier aussi que ce sont des... ils sont en CDI, ces gens-là. C'est des fonctionnaires.
Oui, oui.
Donc, ça raconte aussi que parfois, ça fait 40 ans qu'on est est là et qu'on en a un peu ras-le-bol. Qu'il y en a une qui est là et on aimerait bien qu'elle s'en aille, ou qu'il y en a... Enfin bref, que de temps en temps, il y a quand même quelques frottements. Mais le chef des altos dit, on n'est pas forcément amis, mais on ne peut pas seulement être collègues.
D'accord.
Il faut vraiment...
As-tu vu le film sur la Comédie française?
Oui.
Donc ça évoque ça aussi, mais ça, on en reparlera, parce que
oui,
je crois qu'il est en
tard,
septembre.
C'est au mois de juillet.
Ah, il sort en juillet.
Oui.
Donc on en reparlera plus tard. On écoute la bande-annonce et on passe juste après au film suivant, bien sûr.
Ce sont 18 violonistes qui vont faire le même geste, centième de seconde près. Ça m'impressionne énormément. La force du collectif et de cette volonté de jouer ensemble.
Sur ma droite, j'ai mes collègues bassonistes.
Il y a les cuivres derrière. Les violoncelles sont devant.
Tout le monde peut avoir à certains moments l'impression de servir à rien. C'est faux.
On se remercie, on se félicite assez régulièrement, quoi. Faut être un peu plus que collègue. Sinon, ça prend pas. Sinon, les concerts sont moins bien.
Allez, on reste dans la musique avec Vivaldi et moi.
Oui,
c'est un peu facile, mais bon, ça m'était donné quand même.
Voilà, voilà.
Alors, ce film-là, tiens, on passe tout de suite la bande-annonce juste pour le plaisir des oreilles.
Sont toutes così timide?
Educate all'obbedienza, istruite. Dobbiamo parlare con Don Giulio.
Domenica suoniamo dietro una grata perché nessuno deve mai vederci in volto.
Sono tutte così timide?
Educate all'obbedienza, istruite. Dobbiamo parlare con Don Giulio.
Per prendere chi?
Don Antonio.
Vivaldi?
Prendiamo Vivaldi.
Abbiamo un primo violino.
Io?
Come ti chiami tu?
Cecilia.
Ma tu hai qualcosa che le altre non hanno.
Sei tu che andrai in sposa ad Andrea Sanfermo?
Lo conoscete?
Non poteva capitarti di meglio, sai.
Io vorrei fare una musica che esalti, che stordisca, che sia come la vita.
Più impeto, mi sto addormentando!
Voglio più sposare, ma sposandovi avrei dovuto rinunciare alla musica.
Io non posso far nulla, ma voi invece sì.
Tu non puoi chiedere a me di cambiare la tua vita.
Voi dovete pensare solo a far bella figura con me.
Non sei felice? Tutta Venezia ti ha applaudito. Vedere sprecato tutto il tuo talento, quella è una tortura.
La musica non serve ad imitare i suoni del mondo.
Sì, hai ragione, la musica non serve a niente, però può fare tutto.
De Damiano Michelletto. Alors, on a dû couper un petit peu la bande-annonce parce qu'elle est en italien, mais d'ailleurs, ce qui m'intéresse, c'est le titre de ce film-là, qui est Primavera. Primavera, ouais. Ça veut dire le printemps.
Ouais.
Et en effet, Vivaldi, il est très connu parce qu'il a fait les quatre saisons. Ça, quand même, tout le monde connaît. Même certains vont se dire, oh, c'est de la musique d'ascenseur. Je ne trouve pas que ce soit de la musique d'ascenseur, précisément. Mais voilà, c'est intéressant sur le rapport à cet homme-là qui n'est pas grand-chose, qui est en galère totale, donc Vivaldi bien sûr, mm-hmm. hein, qui est en galère totale et qui arrive dans ce couvent à Venise et qui va enfin créer...
C'est pas un couvent, c'est un orphelinat.
Ah oui, c'est un orphelinat, comme c'est que
très
des...
Important.
Tu as raison. Bah oui, tout à fait, c'est pas un couvent. On a l'impression qu'elles sont quand quand même bien enfermées comme des bonnes sœurs, mais c'est un orphelinat.
C'est le contre-sujet.
Oui, c'est ça. Et on est au XVIIIe siècle. Vas-y, continue alors, vas-y.
Alors, ce que moi, j'ai beaucoup aimé l'aspect musical, évidemment, mais je me suis aussi beaucoup intéressée au destin de ces jeunes filles-là. Ouais. Et ça m'a rappelé le film Gloria de Margareta Vicario,
ouais,
qui racontait l'histoire aussi comme ça, pas d'un orphelinat, mais de jeunes filles qui étaient en collège, en fait, comme ça, avec des servantes. Et les servantes n'avaient pas le droit de faire de musique. Et il y en avait une qui avait trouvé un piano, qui jouait du piano.
En douce.
Donc, ça nous rappelait ce genre-là. Sauf que là, ce sont des orphelines, des enfants abandonnés dès la naissance, qui sont pris en charge pour devenir des musiciennes. Et là où c'est un petit peu bancal, c'est que l'orphelinat qui s'occupe d'eux, qui les éduque, qui les reforme à la musique, vont aussi profiter d'elles pour les marier.
Et donc pour les vendre.
Voilà, c'est ça. C'est des mariages arrangés aux gentils donateurs qui en profitent pour se taper des petites jeunes.
Et à partir du moment où elles sont mariées, elles n'ont plus le droit de faire de musique.
Voilà.
Donc on est toujours sur ce rapport à la musique et c'est assez passionnant de voir. Bah, du coup, on a cette jeune femme dont Vivaldi se serait pris d'amitié.
Oui, elle est douée et se connecte à la musique
grâce
ensemble.
À la musique.
Tout le temps, lui lui fournit des partitions sensationnelles à jouer et elle les joue aussi. Donc c'est normal qu'ils s'entendent. Et c'est aussi une histoire d'émancipation d'ailleurs de cette jeune fille-là, puisqu'elle va, elle, renoncer à un mariage pour pouvoir continuer à jouer de la
musique.
Parce
qu'elle veut absolument jouer de la musique. Vous aurez compris le synopsis, mais voilà, c'est l'histoire de Vivaldi qui va créer Les Quatre Saisons et comment la place de la femme est révélée. C'est finalement assez moderne d'ailleurs, c'est un regard assez moderne sur la place de la femme. Peut-être que c'est le petit bémol, parce que je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait passé comme ça, mais peu importe.
Oui, c'est ça. Et sur le plan musical, on a une évolution aussi, parce qu'il y a d'abord un premier chef qui est moyen, qui est plutôt médiocre, qui leur fait jouer des trucs ennuyeux, toujours pareil. Puis arrive Vivaldi, donc on voit aussi une évolution dans la musique. On entend les prémices des quatre saisons, mais on entend aussi les prémices du Gloria à la fin, parce que le chœur arrive.
Ouais.
Donc tout ça, c'est jubilatoire quand on aime la musique, de voir l'évolution.
Est-ce qu'il y a d'assez jubilatoire, j'en ai vraiment un très beau souvenir, c'est de voir la tête de Vivaldi comme il est heureux quand sa musique fonctionne et quand il a réussi à toucher les cœurs. Ça, c'est un très beau moment. Allez, on va toucher les cœurs autrement. Vous allez voir le grand écart que je vous fais. On est parti sur Michael. Michael qui ? Michael Jackson. Bah oui, c'était facile à faire. Donc, de Antoine Fuqua par John Logan, c'est un biopic, dit-on. Est-ce que c'est vraiment un biopic ?
D'après ce que j'ai compris, pas vraiment.
Tu ne l'as pas vu ?
Non.
Allez, on écoute quand même la bande-annonce. Là, c'est pour le plaisir des oreilles.
Oui.
You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
Let me tell you something. In this life, you're either a winner or you're a loser. Y'all want to work in a steel mill like me for the rest of your days?
No, sir.
Yeah, because I sure as hell don't. Y'all willing to fight for it?
Yes, sir.
I need to hear you a little louder. Y'all willing to fight for it?
Yes, sir.
Ready whenever you are, Michael.
Do you know what I'm after?
You want to be the biggest star in the world?
We need to capitalize on Michael's success. Because the Jackson family is the brand. That's our Coca-Cola. And we need to start selling. So, I'm planning an international tour. This is just the beginning.
I need to think.
I told you what to think.
I love my family. I just want to do my own thing. Just have all these ideas in my head. Just got to get them out.
And do it, Michael. Not a little boy anymore.
People always told me, be careful what you do.
Michael, I knew you were different the moment you were born. You have a very special life.
And mother always told me, be careful who you love.
I believe music can change the world.
Spread love, joy, and peace. That is what I want the world to feel. Magic.
Michael, donc non, ce n'est pas un biopic à mes yeux ou à mes oreilles. Mais comment dire ? Ben, en fait, je pense que la famille a mis la main mise sur le scénario et que donc l'équipe n'a pas eu la liberté de dire ce qu'il voulait. J'ai pensé énormément au film qu'avait fait Valérie Lemercier sur Céline Dion, parce qu'elle avait choisi justement d'aller à côté pour pouvoir dire tout ce qu'elle voulait et tout ce qu'elle savait de Céline Dion, qui n'a pas validé le film, qui n'a pas voulu,
je crois. Elle n'a pas voulu le voir.
Je croyais qu'elle l'avait vu.
Je ne sais pas.
Enfin, c'est rigolo parce que ce choix-là lui a permis d'être entièrement libre. Là, pour le coup, on aperçoit Michael Jackson créer un tout petit moment. On voit bien qu'il est dans sa bulle. On l'aperçoit créer, penser à Thriller, parce que c'est quand même un moment tellement bascule dans l'histoire de la musique, ou des clips vidéo plus exactement. C'était vachement important qu'on pouvait pas le passer sous silence. Mais même l'image, elle est, pour moi, j'aurais bien aimé savoir comment elle a été techniquement. On a l'impression qu'il y a des filtres. Les visages sont lissés. Jafar Jackson, qui est donc le fils de Jermaine Jackson, qui est donc le neveu de Michael Jackson, n'a même pas le même visage. Il y a un filtre sur son visage, il est lissé. Et plein de visages sont comme ça, tronqués. Donc en fait, dès le départ, le ton est donné. Malheureusement, c'est lissé. Je ne sais pas s'il arrive à faire beaucoup d'entrées. Je trouve que moi, j'y suis allée le premier jour, il y avait peu de monde dans la salle, ce qui est assez déroutant.
Et j'ai cru comprendre que c'était plutôt, on nous le présentait comme une légende. C'était la légende de Michael Jackson.
Oui, je vais même dire.
Parce que du coup, ça permet de ne pas parler des zones d'ombre. C'est pas l'homme qu'on observe, c'est simplement une légende, quoi.
Oui, complètement. Bah, c'est un peu ça. C'est même, pour moi, c'est peut-être moche ce que je vais dire, mais pour moi, c'est on a besoin de fric si on parlait de Michael Jackson, et puis comme ça, on va faire un film, puis on sait qu'il y a plein de gens qui vont aller voir le film. Mais je vais te dire, j'ai pensé à la même chose en voyant le show, le musical à Broadway. Parce que, en fait, ils nous ressortent des extraits de musique, ils nous jouent des morceaux. Alors oui, c'est phénoménal de les voir danser, bien sûr, parce que Michael Jackson était un phénomène. Les danseurs qu'il a emmenés avec lui et qui faisaient partie de gangs différents, etc. L'énergie qu'il a envoyée était phénoménale, oui. C'était du génie. Donc oui, mais à part ça, quand raconte-t-on une histoire et quand est-ce qu'on se permet d'aller voir un personnage ? Parce que c'était un personnage dessous. Voilà, c'est assez déceptif tout ce que je vous dis là. J'aurais pas envie de vous dire de dépenser du fric pour y aller. Franchement pas. Attendez que ça passe à la télé. Je suis désolée.
Alors, sauf pour le son.
Bah non, attendez que ça passe à la télé, ça revient même.
Bah non, le son est pas
le même. Souvent le son cinoche, c'est vrai. C'est vrai, bon. Ouais, voilà. Bref, je reste
un peu... De toute façon, je pense que les fans vont y aller parce qu'ils sont fans.
Parce qu'ils sont fans.
Voilà. Et puis ils seront pas déçus parce qu'ils garderont l'image de leurs fans.
Parce que l'image de leur fan n'est pas écornée. C'est voilà. Exact. Oui, tout à fait. Allez, on est parti. Tiens, allez, on change de cap exprès. Je fais un beau grand écart. Sorda, parce qu'elle est sourde.
Ah oui, alors
c'est
là...
C'est à toi. Pas mal ou pas? T'as vu les enchaînements?
Oui, vraiment, on croirait que c'est calculé.
Et même pas, c'est à l'arrache. Voilà. Sorda de Eva Libertad alors, Garcia.
Sorda, ça veut dire sourd en espagnol. Et la réalisatrice qui avait fait un court-métrage sur la surdité de sa sœur. Sa sœur est sourde et c'est elle qui joue le rôle du personnage principal, Angela, je crois. Oui. C'est au moment où... Alors, le court-métrage parlait de ses peurs par rapport à la maternité. Oui. Est-ce qu'elle va être capable de... Est-ce qu'elle va...
Parce qu'elle est sourde.
Parce qu'elle est sourde. Déjà, c'est en général, on se pose même ces questions-là quand on n'est pas sourd. Mais le handicap supplémentaire... Voilà. Alors, elle prolonge la question et puis l'enfant paraît, quoi. Et c'est intéressant parce qu'elle nous crée une bulle avec son mari. Tout va bien. Ils sont heureux. Ils ont les gestes, les signes, tout ça pour se comprendre. Elle est épanouie, etc. Puis tombe la nouvelle. Elle est enceinte, qui devrait la réjouir. Mais les peurs sont là. Et les peurs des autres aussi. Les parents s'inquiètent. Est-ce qu'elle va y arriver, etc. Et puis arrive un autre... le bébé arrive. Et là, le trio n'arrive pas à se former. Parce que lui prend une responsabilité de plus, en plus de s'occuper de...
Parce qu'il l'entend.
Bien sûr, il l'entend, il est plus réactif, et puis il a moins le temps pour traduire, pour s'occuper aussi d'intermédiaire auprès de sa femme. Donc tout ce truc-là est délicat. Les jeunes parents se retrouveront dans cette inquiétude de la naissance.
Et de la place de la mère, du coup.
La place de la mère, la place du père, parce que c'est un père investi, ouais. Donc c'est déjà très agréable aussi. Ouais. Et c'est très très bien vu, et je pense que c'est la comédienne étant sourde, on comprend bien. Comment elle organise des repas avec les amis entendants de son mari. Et du coup, on la voit se reculer petit à petit parce que les conversations se croisent.
Okay.
Voilà. Et on le voit, elle se retire. Et puis, on la voit au milieu de malentendants où là, c'est l'effervescence totale à sa place. Et donc, la place du sourd dans notre société, qui est toujours remise en question ici, est très bien filmée.
Puis là, on parle de l'Espagne, mais c'est pareil en France.
Voilà.
C'est pareil partout.
On se reconnaît partout et ça nous permet de faire attention à ça, quoi.
D'essayer, en tous les cas, de porter un regard à défaut d'une oreille. Je fais un petit pas, on ne met pas de bande-annonce parce que c'est en espagnol, ou est-ce que c'est OK. Mais je pensais à un film qui m'a fait hésiter sur la bande-annonce, et en même temps, il y a de temps en temps un peu de français dedans parce que c'est Swan Arlo. Et en tous les cas, je crois que la bande-annonce on la mettra peut-être pas en entier, mais elle est intéressante parce que c'est un univers sonore très riche. Ouais. C'est Squan Island.
Oui, c'est ça, Squan Island. Alors, c'est ce Squan Island, c'est l'adaptation d'un livre. Je ne me souviens plus de l'auteur.
En tous les cas, le film est de Vladimir de Fontenay. Je le disais, il y a Swan Arlo, il y a Woody Norman et Alma Poesti.
Ce qui est intéressant, c'est que le livre raconte un père qui était divorcé, un peu distant, revient pour renouer une relation avec son fils et lui fait une proposition totalement excitante et en même temps inquiétante, partir un an, tous les deux, dans une île déserte. Donc c'est quand même... ça peut être excitant, mais bon...
Challenge.
C'est une façon de se renouer des liens, c'est vrai. Voilà.
Un peu brutal, mais c'est une façon.
Alors, le livre est raconté d'un point de vue, une partie le père, une partie le fils.
Et là, ils ont dû faire un choix pour le film.
Alors là, lui, il a dit, il a mixé. Lui, il a voulu un point de vue pluriel. Bon, mais ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que l'auteur en question, j'aurais bien aimé retrouver le nom, avait été dans cette situation-là. Le père lui avait proposé ce voyage-là. Son père, qui est décédé peu de temps après, quand il avait 13 ans, il lui avait proposé et lui avait refusé.
Donc là, c'est un fantasme sur ce qu'il aurait pu vivre.
Il aurait dû vivre et puis vivre.
Ah, je ne savais pas ça. Ça nous donne un regard un petit peu différent.
Et c'est très, très intéressant. Mais ceci dit, moi, quand j'ai vu le film, c'était très intéressant. Je ne le savais pas encore. Mais bon, voilà.
Ça donne une saveur supplémentaire.
Voilà, ça donne une saveur. Donc, c'est très, très... Naturellement, on a envie d'être là. Parce qu'on a tout de suite envie d'être à leur place. Que le décor est tellement fantastique. Des lacs, des rivières, des montagnes. Les premiers jours sont magnifiques. Les premiers jours, c'est heureux, quoi. Ils se baladent. Ils organisent leur maison, ils s'installent, tout ça, tout va bien. Et puis forcément, arrive le froid, arrive la tempête, parce qu'on est au nord de l'Alaska, donc c'est pas très chaud, quoi.
Non.
Et les complications vont naître. Donc le film nous tient comme ça jusqu'au bout, nous tient en haleine. Il faut savoir que, en fait, c'est les premières scènes du film, le fils revient sur l'île. Alors, en souvenir de son père qui est mort.
Donc il l'a vécu.
Donc ça, lui, il l'a vécu.
On sait déjà.
Et c'est un souvenir. Il revient sur les traces de son passé.
Ah, ce serait intéressant. Je l'ai pas vu. Donc
il sort bientôt.
Oui, on écoute le début de la bande-annonce. Je vous dis, on va vous la couper parce qu'elle est aussi en anglais, mais au moins pour l'univers, parce qu'elle est assez riche.
C'est pourtant un film français, mais il est en anglais.